Un excellent début de soirée, tout le monde, 19h21, nos amateurs de sport. Et nous retrouvons Danny Dubé au lendemain de ce grand événement que fut le tournoi annuel du Canadien de Montréal à Laval-sur-le-Lac. Bonsoir, Danny.
Salut, Mario.
Alors, la soirée était agréable. Sentais-tu un changement d'ambiance, un changement que la qualité de l'air était meilleure pour les membres de l'organisation, une qualité de l'air meilleure à respirer à la suite de l'annonce matinale, là?
Bien, c'est sûr que d'une certaine façon, il y avait. C'est un mélange. C'est comme sucré-salé. C'est comme. Il y avait un mélange. Il y avait, bon, un certain soulagement, effectivement, de passer à autre chose. Je pense que ça, tout le monde avait identifié l'éléphant dans la pièce. Mm-hmm. Il fallait trouver une solution. Maintenant, je pense que. Grosso modo, quand tout le monde regardait ça, il y avait comme une certaine résignation. On disait, bon, mais là, si on laisse partir un gars de 30 buts, bon, après ça, là, toute la saga autour de qui a dit quoi, qui a fait quoi, il reste qui est parti. Là, et là, tout le monde est là, se regarde, mais c'est un autre qui est parti. Tout le monde se regarde, dit, là, oui, c'est bien la place aux jeunes, mais quand tu regardes l'environnement dans lequel le Canadien, l'environnement que le Canadien est en train de bâtir, c'est un environnement qui inquiète beaucoup de gens. T'sais, puis là, je parle pas de moi, je parle de ce qui se dégageait des conversations puis de l'entourage. Comment cette équipe-là va faire pour être compétitive avec les éléments qu'ils ont maintenant en place, que le directeur général et la direction leur a donné?
Aimes-tu les entendre quand même dire qu'ils veulent absolument se battre pour les séries?
Ben, est-ce qu'ils peuvent dire autrement?
Ben, ouais, c'est sûr que c'est
ça
un
piège. Ça n'a même pas...
Eugene Melnyk le dit tout à fait ouvertement, lui, aujourd'hui, dans une vidéo. Je vais en discuter
tout à l'heure.
Mais lui,
c'est pas un gars de hockey.
C'est pas un gars de hockey, c'est un propriétaire, c'est sûr. Mais Jeff Molson tient aussi cet engage-là. Puis, il est conscient de toute la tradition. Là. Les Molson ont toujours été près de l'histoire du Canadien. Fait que, dans le fond, c'est comme de ne pas accepter de. En fait, même si on les rate, on va vous dire qu'on essaie de les faire, finalement.
C'est en plein ça. Mais tout le monde sait très bien que.
Ils vont peut-être les rater.
Ben là, écoute, l'équation du 3 buts par match, c'est 248 buts. Depuis 2009, le Canadien n'a pas réussi à compter plus de 240 buts. Fait que, cherchez pas de midi à 14 heures. Tant que le Canadien sera pas une équipe offensive comme à sa belle époque, son ADN, c'était l'attaque, même s'ils avaient des bons défenseurs, un bon gardien de but. Puis nous, on a toujours regardé, et ça a été les médias. Toujours à Montréal, les gardiens de but... Et les entraîneurs ont toujours eu la cote.
Oui.
C'est comme ça. Mais fondamentalement, ça a beaucoup à voir avec la culture de l'organisation. Mais quand on y regarde de plus près maintenant, la Ligue nationale, ce n'est plus une ligue où l'entraîneur prend tellement de place, où les gardiens de but prennent tellement de place. C'est un concept général axé sur une dimension offensive omniprésente. Alors, les équipes doivent avoir des bons entraîneurs, ils doivent avoir des bons gardiens, c'est sûr. Mais si tu marques pas de but, tu gagnes pas. Alors, tu peux primer la défensive, tu peux dire que impérativement, c'est important de bien jouer défensivement. Tout le monde va être d'accord avec ça. Mais le virage qui est difficile à faire, c'est celui d'accepter ce qui vient avec l'offensive. Et ça, c'est un virage qui est extrêmement difficile à faire pour les équipes qui ont eu du succès avec ce qu'ils ont bâti, avec leur culture, comme je disais tantôt. Alors, le Canadien, c'est ça. Puis maintenant, ils sont dans une espèce de tourmente, un virage, une transition, reconstruction. Appelle ça comme tu veux, là. Mais quand tu échanges ton capitaine pour un joueur de 20 buts qui est un mal-aimé et un choix de repêchage plus un jeune joueur, un espoir...
Mal-aimé, je trouve que tu y vas fort, mais je t'écoute.
Ben, écoute, Tata, c'est pas...
Il était avec les Red Wings toute sa carrière, sauf...
Ben, ils l'ont pas signé.
Non, mais comme Canadiens n'ont pas signé Paturity, est-ce que
Paturity
est
mal-aimé?
Okay.
Ben oui, okay. C'est sûr.
OK, c'est la même définition. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de talent.
Il est mal-aimé.
Il n'a pas été apprécié, en tout cas.
Il a changé d'adresse. Il s'est retrouvé avec quand même un contrat solide avec Vegas, puis on l'a laissé partir. Et la condition pour le laisser partir, c'était, si vous voulez avoir notre jeune joueur prometteur, vous devez prendre Tatar. Alors, ça nous dit... Bon, on fait un échange d'argent, puis lui, il coûte cher, on le veut plus. C'est ça que ça dit, là.
Mais peut-être que les Canadiens ne l'ont pas juste vu en termes d'argent. Peut-être qu'ils voient un gars qui peut être relancé. L'histoire de Vegas au complet, c'est pas des gars dont on s'attendait, dans tous les cas, sauf Marchessault, peut-être les saisons qu'ils ont connues. Alors, je sais pas, je fais l'avocat du diable un peu. Tatar a des carences en défensive, clairement, quand il était dans les plus, parce qu'il était bien entouré à Détroit. Mais lui, en tout cas, il pense qu'il peut en compter 30.
Ben, écoute, c'est un joueur offensif. Il veut marquer des buts. Mais Pacioretty aussi, c'est un joueur offensif qui voulait marquer des buts.
Ah oui.
Puis il est capable d'en compter 30, puis il le fait régulièrement. Donc, mais c'est pas ça. Le point, c'est que le Canadien se retrouve dans une situation où l'équipe amorce un virage en termes de... écoute, c'est le visage général de l'équipe qui va changer.
Mm-hmm.
Mais je continue pour répondre à ta question initiale. L'autre soir, je t'ai entendu parler avec Benoît. On a toutes nos discussions, Benoît Brunet et moi, ouais, que ce soit avant le golf, au déjeuner, puis tu sais, partout dans la journée.
Ben oui.
Même dans le vestiaire en bas. Puis tout le monde est d'accord pour dire, ben là, écoute, c'est une équipe qui devra trimer dur pour pas avoir du succès, pour se faire respecter dans la Ligue nationale. Parce que c'est ça la réalité. Là.
Tu veux dire sur la glace ou à moyen terme, respecter...
Sur la glace, cette année, l'équipe qui est sur papier au début de la saison, c'est une équipe qui devra trimer très, très dur pour se faire respecter de ses adversaires.
Ben, c'est sûr. C'est sûr. Puis honnêtement, c'est intriguant. Là, je regarde ça, je disais tantôt, c'est peut-être un des camps les plus intriguants qu'on ait vu à Montréal ou qu'on va voir à Montréal depuis belle lurette parce que, tu sais, on peut bien jouer à composer des trios. Il y a beaucoup d'inconnus. Puis tu regardes les deux premiers trios, tu dis, waouh, ça se peut pas qu'ils vont pas essayer de mettre un peu de 16 là à gauche ou poudrer droite. Ils vont essayer, tu sais, ils vont rebrasser ça un peu. Ils vont rebrasser à soupe, là.
Alors, pour utiliser mon expression favorite par les temps qui courent, c'est ça va prendre un peu de magie, mon ami.
Oui. Ça va prendre de la magie, peut-être davantage, mais en même temps...
Les surprises. La magie, pour moi, c'est les surprises. Je m'excuse de t'interrompre.
Oui, mais il va y en avoir des surprises.
Juste pour préciser mon... Tu sais, les surprises, c'est pas dans le camp d'entraînement. Les surprises, c'est durant la saison. La magie, c'est durant la saison. Les surprises, on va en avoir toujours dans le camp d'entraînement, c'est correct. Là, les 10 premiers matchs de l'année, les ballons se gonflent. C'est pas là que ça se passe. Là.
Mais l'an passé, il y avait 20, des attentes 30, d'année. 40. Oui. L'an passé, tu pensais que c'était une équipe de 103 points. Moi, je pensais que c'était une équipe de série. Je me souviens pas du nombre de points que j'ai dit. Fait qu'il y avait des attentes. Fait quand la chaîne débarque aussitôt que l'an passé, là, ça a été la panique 9-1 partout en ville. Là, cette année, les attentes, c'est zéro. T'as entendu Carey Price le dire? Tu sais, à peu près, là, je dis pas zéro, mais tu sais, personne ne s'attend à rien de nous autres. Alors, ça va être un peu leur leitmotiv, là, je sais pas, ça va être quoi leur slogan, tous pour un, ou, tu sais, ça va ressembler à ça, là. Personne, tout le monde pense qu'on est une gang de pourris, puis on va lui prouver le contraire.
Ah, mais là, moi, c'est pas ce que... Fais attention dans le choix des mots, Mario, parce qu'il y a personne...
Bon, là, je caricature un peu, Danny. Non,
mais c'est important. Non, mais c'est important, parce que moi, je dis pas que cette équipe-là est pourrie, là. Tu sais, puis c'est loin de là, mon idée de les diminuer. Je dis simplement que c'est une équipe jeune, c'est une équipe qui va chercher énormément il va chercher ses repères énormément, qui va se chercher une identité. Tu sais, souvent, on parle des équipes jeunes, puis on dit, ah, ben, les jeunes finissent par être bons, puis il faut être juste patient. Non, c'est pas juste ça.
Mm-hmm.
Les jeunes, il faut qu'ils soient très bons. Parce que les jeunes, moi, pour avoir vécu, j'ai eu mes expériences dans le sport, pas à ce niveau-là, mais quand même, assez pour me rendre compte que si tes jeunes sont pas assez bons pour prendre la chambre tout de suite, ça crée un vrai, vrai, vrai problème récurrent au niveau de l'énergie qui se déploie dans la chambre, les zones d'influence, le leadership.
Parce même que là, c'est un Shea Weber dans la chambre, appuyé dans Gallagher,
ben,
puis
d'une couple
d'autres quand même qui est en tête à bonne place.
C'est... Gallagher, sans l'ombre d'un doute, c'est un gars qui a du leadership en lui, puis c'est évident. Maintenant, c'est un modèle par l'exemple, c'est pas un, on va utiliser l'expression, c'est pas un joueur qui change le match à lui seul.
Non.
Ce qui change le match à lui, les joueurs qui changent le match à eux seuls, aujourd'hui dans la Ligue nationale, sont vitaux. C'est eux qui font que tu peux... C'est ta colonne vertébrale. C'est l'image de ton organisation. C'est eux le porte-étendard de ton organisation. Alors, évidemment, quand tu es dans ton organisation, tout se bâtit autour d'eux. Alors, chez le Canadien, il y a beaucoup de jeunes joueurs, mais il n'y a pas cette prestance, il n'y a pas ce genre de joueurs au sein de l'organisation. Et ça m'inquiète, parce que ça replace le leadership dans les mains de joueurs plus âgés qui... dans certains cas, sont peut-être pas nécessairement à la hauteur de ce qu'un leader devrait être à Montréal en termes de prestance ou de statut, je devrais dire, plutôt, dans la Ligue nationale.
Est-ce que ça pourrait devenir l'équipe de Jonathan Drouin en attaque cette année? Parce que là, les portes sont grandes ouvertes pour lui. Il y a une année d'apprentissage dans le marché de Montréal à cette réalité-là, au centre, etc. Mais vois-tu ça comme une une hypothèse, une possibilité que...
Ben, écoute, c'est sûr que la question est très pertinente parce que ça devient un joueur sur qui tu peux baser tes attentes. Tu sais, tu peux dire, Jonathan devra en donner plus parce que un tel est parti, lui, par ricochet. L'effet cascade de ça, c'est que, ou l'effet domino, c'est que ça va tomber sur les épaules des meilleurs joueurs, des hauts salariés, et, etc. Donc, il fait partie de cette catégorie de joueurs-là.
Va-t-il bénéficier du départ de Patcherity?
Est-ce que ça va être l'équipe de Jonathan Drouin? Ben, écoute, je vais attendre le camp d'entraînement, je t'ai dit hier, puis je continue. Moi, j'attends de voir des choses avant de me prononcer. Mais c'est sûr que le succès du Canadien de Montréal passe par les meilleurs joueurs, comme c'est comme ça pour toutes les équipes. Et dans le contexte actuel, lâchez-moi avec Carey Price, je comprends, mais Carey Price, là, tous les experts de la Ligue nationale actuellement, il n'y en a pas un qui donne plus que 25 victoires à Carey Price. Pourquoi? Pas parce que Price n'est pas bon. Parce que l'équipe du Canadien ne marque pas de but. Et si l'équipe du Canadien ne marque pas de but, ça veut dire qu'après deux buts, Carey Price va être déjà dans les taux. Et dans la Ligue nationale, les Hollybuck, Winnipeg, les Pecorine à Nashville, les Vasilevski avec Tampa Bay ont été les meilleurs gardiens de la Ligue nationale. Ils ont joué tous les trois pour des équipes offensives. Alors, moi, je veux bien là qu'on commence à comparer Carey Price à ces gars-là ou comparer ces gars-là à Carey Price, mais ça prend une certaine marge de manœuvre, ça prend une certaine latitude. Et j'attends de voir ce qui va se passer au camp d'entraînement pour déterminer qui vont être les pièces maîtresses de cette offensive, parce que je suis pas vire-capo, là. J'ai pas changé mon discours, Mario. Puis même si l'équipe rajeunit, même s'il y a un virage qui s'amorce, ça demeure le nerf de la guerre, c'est est-ce qu'on est capable de marquer des buts au moins 3 par match? Si on a cette force de frappe, on est compétitif. Le reste, on va s'en occuper plus tard.
Un mot sur Julien Brisebois qui accède à la direction générale du Lightning de Tampa Bay. Danny, c'est quand même une grosse nouvelle dans la Ligue nationale de hockey. Le départ d'Eiserman éventuel, il va rester comme conseiller, mais la nomination de Julien, tu le connais personnellement?
Je le connais personnellement. Commencé au début des années 2000 avec le Canadien de Montréal, mais ce qui m'impressionne, c'est que Julien a pris beaucoup de temps à se développer. Il est passé longtemps sous le radar en étant directeur général avec les Bulldogs d'Hamilton et tout ça. Mm-hmm. Et ensuite, a fait sa transition, s'est retrouvé avec le Lightning, a été le bras droit de quelqu'un qui est très respecté dans la Ligue nationale et établi en Steve Eiserman. Et aujourd'hui, quel est le message que ça envoie? Écoute, lui, là, il a pas joué au hockey, là, Julien Brisebois.
C'est
il
ça
a
que
pas...
je dis, il représente des minorités. Il est francophone, tout à fait. Il a pas joué au hockey, m'a dire une affaire, bravo.
Bravo, on est tous très fiers parce que quelqu'un de chez nous qui a toujours été très généreux avec nous. Mais là, ben, tu sais, là, lui, le défi, il est entier. Maintenant, il passe du héros obscur à celui qui maintenant va leader les troupes, celui qui va être le chef d'orchestre. Mais il remplace quand même quelqu'un qui a une prestance, quelqu'un en Steve Eiserman qui est établi dans la Ligue nationale, qui a une crédibilité. Alors, c'est pas rien, là. T'sais, c'est pas
non.
Cette transition-là de facto, on dise « OK, c'est normal que ce soit Julien Brisebois qui prenne la place de Steve Eiserman dans un environnement où c'est quand même américain, là. Très, très US. C'est pas... Même s'il y a des Canadiens, mais... Bon, les francophones ont fait leur marque au sein du Lightning, j'en conviens. Mais il reste que c'est une grosse nouvelle. Vraiment, une très grosse nouvelle.
Vraiment. Danny, merci de tes commentaires et on se retrouve très bientôt. Merci d'avoir été là ce soir.
Avec plaisir, Mario.
Bye bye.
À bientôt.
Bonne soirée. Okay. Ray Lalonde est déjà installé en studio. Les sujets sont nombreux. Le prix de la pub pour les matchs des Canadiens, les propos de Melnyk, reconstruction et l'avenir des sénateurs et du « I'm not going anywhere ». Et les Jeux olympiques de Calgary également, 2026, la facture qui va venir avec, entre autres.